c'est Philippe. Je suis à nouveau au studio Radio Galère, à la Friche Belle de Mai, où c'est toujours un plaisir de retrouver notre technicien Sidi. Alors en fait, aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, mais aujourd'hui, donc mercredi 18 mars, j'ai pu aller là-bas du côté de l'Estac enregistrer Tino qui est l'un des coordinateurs de la nouvelle flottille qui va s'engager vers Gaza, la Southern Madeleine to Gaza. Et donc, je suis là parce que je suis un marin, j'organise depuis 5 ans la route du Zaatar, et je suis là aussi parce que je suis membre de Palestine 13. Palestine 13, donc c'est l'antenne départementale de l'association nationale Association France-Palestine Solidarité, qui a pour mérite d'animer un site internet très bien fait, c'est assopalestine13.org, dans lequel on a quotidiennement, plusieurs fois par jour, des mises à jour sur des informations de toutes sortes, qui sont des informations fiables, sourcées, objective, informative, pas du tout les mêmes que celles qu'on trouve dans beaucoup d'autres médias. Et dans ce site internet, donc assopalestine13.org, en haut à gauche, il y a un agenda qui est très précieux pour savoir tout ce qui se passe par rapport à la Palestine, à Marseille, à Aix, dans les environs, et voire y compris dans le Var, en Vaucluse, etc. Et donc, la fin de ce mois de mars est très riche, puisque dès demain, jeudi 26 mars, à 18h, à la Colorada, c'est au 76 de la rue Consola, aura lieu le vernissage d'une expo qui s'appelle Portrait de détenus politiques, détenus au féminin en l'occurrence, proposé par Lino Broderie. Donc le vernissage est demain à 18h, demain jeudi, mais l'expo durera plusieurs semaines, et bien évidemment parmi les détenus politiques au féminin qu'il y a dans le monde entier, il y en a beaucoup en Palestine. Après demain, on sera donc vendredi 27 mars à 19h30, sera présenté en avant-première un film réalisé par Karl, qui s'intitule L'affaire Abdallah, de ce fameux Georges Ibrahim Abdallah, qui a été pendant longtemps le plus long détenu politique en France et qui a enfin été libéré. Et cette avant-première sera précédée d'un film qui s'appelle We Teach Life, Sir, de Rafif Ziad, qui est proposé par les instants vidéo numériques. Et puis il y aura un débat avec Charles Auraud et Vincent Gessin, mais à l'heure où je vous parle, dans l'agenda donc du site Asso Palestine 13, le lieu de cette avant-première n'est pas précisé. À vous de le trouver par rapport aux instants vidéo numériques, mais d'ici là, ça sera mis à jour dans le site. Et puis samedi 28 mars, à l'initiative de l'association France-Palestine Solidarité, qui a été rejointe par 90 organisations signataires, aura lieu, et c'est une déclinaison française d'une manifestation internationale de soutien à la Palestine. Donc c'est samedi 28 mars. Bien évidemment, beaucoup de gens iront à Paris. Mais à Marseille, rendez-vous est donné à 14h, place de la Joliette, pour faire une certaine marche qui arrivera, je crois, jusqu'au palais de justice. Mais au niveau maritime, samedi 28 mars, quelques bateaux de la flottille qui sont actuellement rassemblés à l'Estac feront une petite parade en rade de Marseille, et au moins un ou deux bateaux s'amarreront en bas de la Canebière, au quai de la Fraternité, au niveau de l'Ombrière. Donc soyez nombreux pour soutenir ces gens donc qui sont à ce moment dans un lieu très sympathique. Quand on dépasse l'Estac en allant à Corbière, au niveau de l'arrêt du bus 35, en face de la rue Monté-Casteljon, derrière l'arrêt de bus, il y a un mur. Dans ce mur, il y a un trou en forme d'arche. Et quand on passe ce trou, dans un grand hangar, on voit tout le matériel qu'amène des gens, que ça soit de la nourriture, des habits, des produits hygiéniques, des produits de santé, etc. Et il y a tout un tas de gens, jeunes pour la plupart, hommes ou femmes, des gens qui viennent de nombreux pays et qui préparent 18 voiliers qui vont partir en avril sur une nouvelle flottille pour Gaza. Je rappelle que c'est depuis 2008 que des flottilles prennent le cap vers Gaza pour protester contre le blocus de Gaza qui avait démarré en 2005. Aucune d'entre elles n'est arrivée au port, alors que dans toutes les règles de base des conflits internationaux, que ce soit suite à des catastrophes naturelles ou à des guerres, il est obligatoire de maintenir des corridors humanitaires pour apporter au moins de quoi boire, de quoi manger, de quoi se soigner aux gens qui sont en péril. On sait que depuis des mois et des mois, malgré le soi-disant cessez-le-feu, les convois humanitaires terrestres qui sont censés amener de quoi aider à survivre les centaines de milliers de Gazaouis qui sont au bord du précipice sont bloqués. bloqués aux frontières. Et donc, cette fois, ben, c'est de plus en plus de bateaux qui partent. Et donc, il y a plusieurs flottilles. La plus internationale, disons, ça s'appelle Global Sumut Flotilla. Mais les bateaux qui sont préparés à Marseille, c'est la Thousand Madeleine to Gaza. Et donc, j'étais tout à l'heure à l'Estac pour enregistrer l'un des coordinateurs de cette flottille qui s'appelle Tino. Et donc, on va écouter Tino. Voilà, alors nous sommes mercredi du 18 mars, alors je ne suis pas au studio de l'Afrique, je suis à un endroit qu'on adore tous à Marseille, c'est l'Estac, plus précisément un peu plus loin que l'Estac en allant vers Port-Corbière. C'est un endroit très très vaste qui autrefois abritait des entreprises avec des hangars et avec le collectif Faites le Grand Estac, avec Tala, etc. On travaille auprès des autorités, qu'elles soient municipales et surtout en l'occurrence les autorités du Grand Port Maritime de Marseille, pour que ce lieu ne soit plus à l'abandon. On peut s'y promener, on peut être plus près de la mer que malheureusement tous ces espaces où les Marseillais ne peuvent pas accéder et la mer. Et puis depuis fin février, il y a à peu près une quinzaine de voiliers qui sont arrivés de Port-de-Bouc ou d'ailleurs et qui sont préparés par des jeunes, je dirais, bon, majoritairement des jeunes, hommes ou femmes, internationaux. Et ils sont préparés pour quoi ? Ben, pour remettre le cap en avril sur une nouvelle flottille qui va mettre le cap vers Gaza, en l'occurrence la Thousand Madeleine Flotilla. Alors c'est jamais simple de partir avec un bateau, surtout en Méditerranée qui a une mer pas facile, mais là il y a un nombre important de bateaux qui vont rejoindre d'autres, et donc ce qu'il faut dans ces cas-là, bien évidemment, c'est organiser le mieux possible la préparation et ensuite évidemment la navigation vers Gaza. Et donc je suis avec Tino qui n'est pas d'ici, Tino est grenoblois, mais l'année dernière quand il y avait la Thousand Madeleine, donc 2025, il a vu ce qui se passait, il a vu comment les bateaux avaient été attaqués illégalement par l'armée israélienne dans les eaux internationales. Il a envoyé un message pour dire qu'il avait des compétences en organisation et il est là. Alors, Tino, est-ce que j'ai un peu résumé la raison pour laquelle tu es là ?
Ouais, bah il y en a plein d'autres, mais effectivement, moi je suis un militant politique depuis longtemps et la situation en Palestine, elle me touche. Je pense comme elle touche plein de gens, militants ou non. Et la flottille, je pense que c'est un moyen d'action qui est assez palpable, qui est assez concret et qui nous permet un peu collectivement de sortir de l'impuissance. Ça veut pas dire enfin qu'on va pouvoir changer la face du monde, je pense qu'il faut rester humble, mais en tout cas il y a concrètement un mouvement qui existe avec des capacités logistiques importantes et qui a été en 2025 un catalyseur incroyable de mobilisation, et du coup c'est pour ça qu'on y croit et qu'on a de l'espoir pour les flottiers.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la capacité de mobilisation des bateaux. Ici, à Marseille, on a créé en 2012 les voiles de la Père Méditerranée. À l'époque, on était allé chercher Florence Artaud pour marraine. Et mon message à tous ces terriens qui, depuis des décennies, depuis des siècles, même manifestent à terre. Alors, autrefois, avec des points levés, puis ensuite avec des panneaux en bois, des banderoles, des pancartes, etc. Chaque terrien, sur l'un kilomètre qu'il fait, il voit tout un tas de panneaux, qu'ils soient publicitaires ou revendiqués. Du coup, il n'en voit plus aucun. Alors que dès qu'on met un message sur un bateau, sur une voile, même les gens qui n'ont jamais navigué, c'est que ça reste quand même un symbole absolu de liberté. Et je crois que tous et toutes, ce qu'on veut concernant les Palestiniens en particulier, mais aussi tous les peuples opprimés, c'est qu'ils aient au moins la liberté de vivre sur leur terre, qu'ils aient la liberté de déterminer comment ils doivent vivre. Et là, en l'occurrence, le sujet, c'est que donc, je sais que des flottilles partent vers Gaza depuis 2008, parce que c'est à partir de 2005 que après toutes les expropriations, les assassinats, etc., qui ont eu lieu à Gaza, a commencé le fameux blocus de Gaza. Comme il y a par ailleurs un blocus contre Cuba, le Venezuela, et j'en passe, et des pires, voilà. Et donc, en 2008, le sujet a été de dire, ben non, un blocus, c'est illégal, il y a des lois internationales qui imposent, lorsqu'il y a un combat, lorsque des gens sont en difficulté, d'avoir des corridors humanitaires. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs flottilles qui sont engagées, je crois que on va dire que celle qui est la plus internationale, c'est la Global Sumut Flotilla. Eux, je crois qu'ils mettent vraiment en avant cette absolue obligation d'avoir des corridors humanitaires. On sait que tous les camions qui ont plein de substances pour faire survivre les Gazaouis sont bloqués à l'intérieur de Gaza. Et donc, ils se disent, eh bien, il faut aussi qu'il y ait des corridors maritimes. Moi, en entendant votre message de la Thousand Madeleine au Gaza, comme tu dis, il faut rester humble dans ces cas-là, vous prétendez pas avec 15, même 100 voiliers, je dirais, amener tout ce que les centaines de milliers de Gazaouis qui survivent ont besoin. Mais finalement, le message de la Thousand Madeleine to Gaza, on pourrait le résumer comment?
Eh bah c'est, je pense que c'est pas évident à résumer, mais comme tu l'as dit, en fait, nous on pense que briser le blocus c'est le prérequis à n'importe quel corridor, qu'il soit maritime, terrestre, etc. Et en fait, même plus loin que ça, nous ce qu'on revendique, c'est pas d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza, c'est de faire en sorte qu'à Gaza il n'y ait plus jamais besoin d'aide humanitaire. Et de donc donner les moyens de l'autonomie, et ça, bah, il y a un prérequis politique qui est la fin de l'impérialisme israélien, qui lui-même est en fait un avant-poste de l'impérialisme occidental. Et nous, c'est ça qu'on dénonce en particulier. Alors que bien sûr, on navigue vers Gaza, on y va physiquement, donc quand on va amener des choses à Gaza, nous, on cible plutôt des choses qui permettent l'autonomisation, des panneaux solaires, des batteries, des convertisseurs. Donc on a un bateau sur ces questions-là. On a un bateau autour de la question de l'agriculture qui va ramener des graines, la question de la terre. Enfin, le peuple palestinien, c'est un peuple d'agriculteurs historiques. La question de la terre, voilà, c'est une question qui est centrale. Pouvoir amener des graines, c'est très symbolique aussi. En fait, c'est matériellement, concrètement, ça aide. On a beaucoup de liens avec les pêcheurs, par exemple, aussi. Donc, on a un bateau qui est autour du thème de la pêche qui va ramener des moteurs hors bord, des annexes gonflables, de la fibre de verre pour récupérer, pour réparer, pardon, les bateaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, leurs bateaux, ils sont systématiquement détruits par les forces d'occupation et qui s'en sont à fabriquer des bateaux avec des portes de frigo.
Ouais, tout à fait.
Donc, d'ailleurs, oui. Beaucoup de précarité pour les pêcheurs. Et bah, en fait, c'est un moyen de subsistance qui est assez central, la mer à Gaza, qui est un territoire quasi exclusivement maritime.
Oui, qui est même fondamental. Je suis très heureux que toi, en tant que terrien, tu rejoignes ce que je plaide en permanence en tant que marin, c'est que dès qu'il y a un texte qui parle de la Palestine, évidemment, il y a plusieurs fois le mot terre, que ce soit les territoires occupés, le blocus terrestre, les frontières terrestres, etc., l'accaparation des terres illégales par les colons, mais on ne prononce jamais assez le mot mer. Or, c'est fondamental, car même si un peuple a un pays sur lequel il peut s'autodéterminer et s'organiser, mais qui n'a aucun accès à la mer ou à l'eau, c'est pas un pays, en fait. En tout cas, c'est un pays enfermé. Or, ce qui est fondamental dans la Palestine, et Gaza en particulier, c'est cet accès à la mer. Là, il y a en ce moment, je pense que ça a encore lieu à l'Institut du Monde Arabe à Paris, une expo qui s'appelle « Les trésors sauvés de Gaza », où on prend conscience à travers la géographie comment dans le passé, cette fameuse, ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza, est un accès à la mer extraordinaire. Il y avait une profusion de poissons fantastiques. Et justement, malheureusement, on voit très peu, malheureusement, les massacres qui sont faits à terre, mais encore moins en mer. Et donc, je rappelle sans arrêt l'existence de ce film magnifique qui s'appelle « Aimer la mer à Gaza ». Il est disponible en vision gratuite sur YouTube. Et ce film « Aimer la mer à Gaza » montre une jeune femme dans les années 2010 dont le père avait eu un gros problème et elle voulait devenir patron pêcheur. Et justement, le prénom de cette femme, c'est Madeleine, M-A-D-L-2-E-N. Et c'est de cette jeune femme qui aujourd'hui, 14 ans plus tard, est devenue donc patron pêcheur et est devenue maman. Je crois qu'elle continue à résister malgré le fait que, évidemment, les gens qui sont en bord de mer ont encore moins de ressources que ceux qui sont en terre, hein, puisque sur les dunes, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas faire pousser de graines, etc. Donc j'invite tout le monde à regarder ce film. Alors on espère tous que, contrairement à ce qui se passe depuis 2008, il y a au moins un bateau, voire plusieurs, qui puissent arriver effectivement à Gaza, parce que c'est complètement illégal et inacceptable d'attaquer des bateaux dans les eaux internationales, advienne que pourra. En tout cas, l'existence de ces flottilles fait que, forcément, on en parle énormément dans le monde entier. Et le sujet, c'est ça, c'est qu'on parle sans arrêt des agressions que subissent les Gazaouis pour qu'ils puissent survivre. Donc, alors là, on est donc là sur l'émission du 25 mars. Je sais qu'il y a deux jours, il y a eu un gros événement à la plaine de soutien, etc. Et le prochain événement, tu peux nous en parler, c'est le 28 mars. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer le 28 mars?
Ouais, comme t'as dit déjà, je rebondis là-dessus. Évidemment, nous, notre but, c'est d'imposer une défaite symbolique à l'État israélien en déjouant le dispositif militaire qui nous sera opposé et en faisant en sorte que parmi tous les bateaux qui partent, il y en ait quelques-uns qui puissent au moins accoster à Gaza. Maintenant, c'est pas une finalité. La flottille, c'est un moyen, on l'a dit, et c'est le moyen de construire des mobilisations à terre en soutien énorme. Et donc là, depuis le pseudo cessez-le-feu qui a été imposé par Trump, la question palestinienne, elle a, pour ainsi dire, disparu des médias, même, on va dire, des séquences politiques qui ont existé ces derniers mois. C'était les municipales jusqu'au 22, et donc nous on s'est dit effectivement, comme tu l'as dit, à partir du 23 on fait un premier événement parce qu'il faut construire une séquence politique massive, populaire. Il faut que les syndicats la rejoignent, il faut que le mouvement social pour la Palestine la rejoigne, il faut que toutes les composantes en fait de la société civile la rejoignent.
Alors justement, il y a un gros événement qui se prépare depuis des semaines, c'est le samedi 28 mars, manifestation nationale à nouveau pour la Palestine, et donc avec la 40,000 Madeleine to Gaza, puisque c'est samedi prochain, là, le 28 mars, vous prévoyez quoi? Comment on peut voir ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer samedi?
Donc ouais, une manifestation nationale et internationale, et à Marseille en particulier. Voilà. Nous, on travaille avec une coalition d'organisations depuis plusieurs semaines à la préparation de ce samedi. Et donc, il y a une manifestation qui part de la Joliette en début d'après-midi et qui va jusqu'au tribunal et qui, sur sa route, s'arrête.
Attends, quel tribunal?
J'en sais rien.
D'accord.
Tribunal où il y aura le procès de Rowling, mais je sais pas lequel.
D'accord. Ok. Ben, c'est sûrement le palais de justice à Marseille, alors, probablement.
Ouais, j'imagine. Okay. Qui est pas trop loin, normalement, mais je connais pas assez bien Marseille.
D'accord. Et les bateaux, alors?
Et donc, cette manifestation qui part de la Joliette en début d'après-midi, elle va s'arrêter, sur le Vieux-Port, à côté de l'Ombrière. Et donc, nous, on fera une parade nautique. On sortira certains bateaux de la flottille et on fera une prise de parole aussi pour expliquer ce qu'on fait et donner de la force au mouvement de la flottille.
Ok, alors on a l'habitude à Marseille d'organiser des grandes parades, on l'avait fait pendant des années avec l'office de la mer Marseille-Provence. Il y a évidemment eu la fameuse grande parade quand la flamme olympique est arrivée avec le Bélème. Donc on invite tous ceux qui ont des bateaux, qu'ils soient petits ou grands. Le 28 mars, c'est déjà le printemps, donc tout le monde est bienvenu en mer pour accompagner les quelques bateaux qui seront déjà prêts et qui défileront, ça sera facile de les reconnaître. Ils ont ce fameux drapeau noir, blanc, rouge et vert de la Palestine. Et donc, ceux qui ne peuvent pas embarquer sur des bateaux, ben, bienvenue autour du Vieux-Port et en particulier au niveau de l'Ombrière pour rencontrer tous ces jeunes hommes et femmes qui sont venus de nombreux pays internationaux pour donc, à l'Estac, préparer les voyers qui vont partir sur la 1000 Madeleine to Gaza 2026. Bon, et donc, Tino, je comprends qu'à cette occasion, ça va être pour toi aussi l'occasion de naviguer dans notre fameuse Méditerranée, peut-être pas jusqu'à Gaza, hein. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être s'arrêter en Sicile ou en Grèce, tu verras bien. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut te dire, alors?
Et bah effectivement, moi je sais pas encore ce que je ferai exactement, et de toute façon c'est pas mon destin personnel qui compte. Je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait la mobilisation la plus massive possible en soutien. Nous, on est extrêmement touchés de voir les habitants de l'Estac ici qui viennent à notre rencontre chaque jour, tous les liens politiques et personnels qu'on peut créer. Moi je pense qu'on peut souhaiter à cette flottille d'être accompagnée massivement au moment du départ par tous les bateaux aussi qui le souhaitent, d'avoir un maximum de relais et puis d'arriver à briser le blocus pour Gaza.
Ok, merci beaucoup. Coutinho, et donc on est seulement le 25 mars, on a au moins jusqu'au 5 avril, voire plus, pour apporter donc à ce fameux espace là qui est exactement au niveau de l'arrêt du bus 35, là, le bus 35 qui relie tant bien que mal le Port Corbière à la Joliette. Donc au niveau de ce bus de l'arrêt 35, en face de la rue Monté-Casteljean, il y a une petite arche dans le mur, on passe cette arche et on accède à cet espace où tous les jours, on peut amener déjà de la nourriture, parce qu'il faut que tous ces gens mangent des boissons, et puis tout un tas de matériel. Allez sur le site 1000 Madeleine to Gaza. Il y a besoin de vêtements chauds, de tout un tas de choses, on est aussi au niveau aussi pharmaceutique. Bref, n'hésitez pas à venir jusqu'au mois le 5 avril, et après, bien sûr, c'est la météo qui décidera si le 4 ou le 5 avril, les bateaux pourront mettre le 4 à l'est ou pas. En tout cas, Forza Gaza et vive la Palestine. À bientôt sur Radio Galère. Voilà, donc on souhaite le meilleur vent possible et d'aller le plus loin possible à cette flottille 1000 Madeleine to Gaza. Et je rappelle que Madeleine, ça s'écrit M-A-D-L-E-E-N, ça vient du prénom de cette jeune fille qui, dans les années 2010, vivait à Gaza, et le père était patron pêcheur, mais il avait eu je ne sais pas quel grave problème, et cette jeune fille voulait devenir patron pêcheur. Et des années plus tard, c'est ce qui s'est produit, et grâce à Sarah Katz, qui était dans les années 2010 à Gaza, un film est sorti en 2024, qui est disponible gratuitement sur YouTube, et qui s'appelle « Aimer la mer à Gaza », dans lequel on voit cette jeune fille qui est effectivement devenue patron pêcheur, mère, et qui fait partie des femmes qui résistent à Gaza et qui continue de tenter tant bien que mal de pêcher. Voilà, alors pendant qu'on entendait donc Tino, j'ai eu l'information du fait que donc après-demain, vendredi 27 mars, à 19h30, l'avant-première du film L'affaire Abdallah, qui sera précédée du film We Teach Life, Sir, de Rafif, avec les instants vidéo numériques, et suivi d'un débat avec Charles Auro et Vincent Guessin. Ça va avoir lieu dans un des cinémas qu'on adore à Marseille, c'est le cinéma Le Gyptis, donc c'est à la Belle de Mai, et c'est là qu'aura lieu donc cette avant-première. Voilà, alors on entendait donc ces bateaux qui vont repartir en flottille. Je rappelle qu'il y en a plusieurs. À peu près vers le 12 avril, la Global Sumut Flotilla va démarrer de Barcelone. La Southern Malin to Gaza, donc les bateaux de Marseille, sont censés partir au moment du week-end de Pâques, c'est-à-dire 4 ou 5 avril, selon la météo bien sûr. Ces deux flottilles se rejoindront au niveau de la Sicile, etc. Et en parallèle, j'ai pu enregistrer Émilien Urbach, qui lui a été l'envoyé spécial du journal L'Humanité et l'un des skippers de la Global Sumut Flotilla 2025. Et nous constatons tous que toutes ces flottilles se faisant donc attaquer, certains bateaux coulés, d'autres confisqués, etc., par l'armée d'Israël de façon illégale dans les eaux internationales, tout ce qui se crée pendant les navigations des bateaux se perd, que ce soit les photos, les sons, les textes, etc. Et donc, depuis des mois, se prépare un projet qui s'appelle le Centre culturel embarqué, de façon à ce qu'un bateau suivent les flottilles au fil de la navigation, avec à bord bien sûr un ou deux marins, et puis des gens qui peuvent être des artistes, des journalistes, des photographes, en particulier palestiniens bien sûr. Et donc ce bateau va suivre les flottilles et collecter au fil de la navigation tout ce qui se crée, et le moment venu, avant de se faire torpiller par donc l'armée d'Israël, changer de cap de façon à ce que tout ça soit conservé. Et donc c'est un bateau qui va baser à 7 actuellement, qui va être en carénage là au chantier Port Maritima de Martigues et qui s'appelle l'Hétérotope. Et on peut aller voir ce concept de centre culturel embarqué sur internet en tapant, excusez-moi, c'est en anglais, on board, O-N-B-O-A-R-D, tiré cultural, tiré center. Donc évidemment, que ce soit pour la flottille ou pour le centre culturel, il y a toujours des appels à dons, que ce soit financier ou matériel. Donc je trouve que c'est une initiative très intéressante. Et donc forcément, sur les bateaux, il y a des marins, mais il y a aussi quelque chose de fondamental, de très important, c'est de bien manger, qu'on soit à terre ou en mer. Et donc il faut des cuisiniers. Pas forcément des cuisiniers très très savants, mais en tout cas qui sont capables, avec des produits simples, de faire ce qu'il faut pour que les gens soient bien nourris. Et donc on a la chance à Marseille, parmi tous les endroits où on peut déguster la cuisine du Moyen-Orient en général, du Liban, de la Syrie et de la Palestine en particulier, d'avoir Abed qui est un réfugié politique gazaoui. Il est arrivé en France il y a longtemps, il est à Marseille depuis quelques années, et après bien des obstacles, il a réussi à ouvrir son restaurant Le Rimal, qui est au 35 de la rue Vacon, et on va donc entendre Abed nous parler de son travail pour perpétuer, pour faire aimer la cuisine palestinienne. Ok, donc tu as obtenu ce CAP de cuisinier, mais en plus je crois que tu as passé aussi plusieurs mois pour passer le permis de conduire.
Et le permis de conduire, je l'ai commencé avant le 7 octobre, donc tu sais, le 7 octobre est commencé, soudain comme ça, donc j'ai arrêté, et après j'ai repris, donc j'ai galéré pour avoir le permis de conduire, j'ai raté la première fois à cause d'un, malheureusement, inspecteur, c'était trop clair qu'il était raciste, malheureusement, j'ai dit ça avec un blanc de tristesse, parce que tu sais, je veux dire, t'entends qu'il y a du racisme, etc., mais quand ça tombe sur toi, c'est un bout dur et agressif.
Surtout quand tu as passé des mois et dépensé beaucoup d'argent.
Oui, plein d'argent, plein d'argent, vraiment.
Bon, finalement, parce qu'évidemment, j'imagine qu'en Palestine, tu avais un permis. Tu as un permis.
Oui. Mais malheureusement, ils ont refusé de la changer, voilà, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'État palestinien.
Malheureusement.
Mais j'oublie jamais mon amie, une militante française, qui m'a accompagné pour 6 mois. Pour 6 mois, t'imagines, et dans une conduite accompagnée afin d'avoir le permis quand même. Donc j'étais pas seul, non. Pour être honnête, les Marseillais, ils sont chaleureux, ils sont agréables en général, et je vous aime beaucoup, les Marseillais. Et je vous dis quelque chose en plus, pour ouvrir le restaurant, j'étais bien accompagné par des Français quand même, par des Français, par des Arabes, par des militants en général pour la Palestine, et gens de gauche, bien sûr. Donc, que non, j'étais pas seul. Ça, c'est un truc que je l'aime bien. Je l'aime bien de le dire quand même. Non, j'étais pas seul bon de la gare. J'étais pas seul pour ouvrir le restaurant. J'étais pas seul pour avoir le permis. C'était très difficile, mais le beau soutien des autres, ça m'a bien aidé toujours d'avancer.
De toute façon, c'est sûr qu'on ne peut rien faire de grand seul. Et ce que tu fais, c'est grand. Je t'avais dit, quand tu avais voulu ouvrir un restaurant, qu'ouvrir un restaurant, déjà, quand on est français en ce moment, à Marseille ou en France, c'est difficile, très difficile. Mais bon, maintenant, finalement, ce restaurant, tu l'as ouvert. Et alors, quand on a su qu'il allait ouvrir, tu m'as dit le nom. Au début, j'avais compris que c'était le Rimmel, comme le sable. Oui, non, mais j'avais compris le Rimmel comme le noir que se mettent les femmes sur les yeux. C'est le Rimmel. Mais non,
oui,
okay. non, c'est le Rimmel. Et alors, le Rimmel, à l'époque, tu m'expliquais que ça voulait dire sable en arabe. Et puis, si j'ai bien compris, c'était, paraît-il, une plage magnifique à Gaza.
Exactement. Le quartier de vieux bord à Gaza, en fait.
Du vieux port.
Exactement. Bon, comme je suis là dans Vieux Bar à Marseille, j'essaye de faire. Et c'est à cause de laquelle j'écris sur le menu de Gaza à Marseille.
Oui.
Parce que c'est deux vieux bords méditerranéens.
Voilà.
Tu vois.
Et
moi, je le ramène. Je ramène aux Marseillais, aux touristes et la cuisine gazaoui en général. En particulier, sébastien en général.
Oui.
Mais en particulier, c'est le gazaoui.
Non, mais ça, je comprends très bien.
Parce et il y a quelque chose, Philippe. C'était pas facile d'ouvrir le restaurant parce que, comme tous les gazaouis, on est galéré pour aider nos familles à Gaza, donc je suis arrivé à rien. Donc la première fois quand j'ai demandé l'aide par l'association, association très très connue à Marseille, en fait ils n'ont pas compris mon statut réfugié parce que j'ai la nationalité d'origine indéterminée.
Eh oui.
Donc je pense elles ont pensé que j'ai arnaqué mon titre de séjour. T'imagines. Donc entre temps j'ai fait des stages, j'ai travaillé chez les autres, etc. À un moment donné, il y a l'association Senga, et là, je mentionne bien l'association Senga parce que c'est eux qui m'ont accompagné et d'arriver d'ouvrir le restaurant.
Attends, cette association Senga, ça s'écrit
Senga, comment? Senga, S-I-N-G-A.
D'accord. Donc c'est une association,
c'est une association
qui aide
à Marseille, oui. À Roudex, à la fin
d'accord,
de Roudex.
D'accord.
Et cette association, elle accompagne les réfugiés qui ont du mal à se communiquer avec la société, je veux dire la société financière en général.
Je comprends, tu vois? Mais surtout au niveau administratif, alors si je comprends bien.
Non, on parle de niveau financier. Donc,
financier. D'accord.
Donc, avant tout, il y a un bout d'association, Isabelle Assameu, qui te prête 8 000 euros afin de t'ouvrir le bord en face de la banque, en face de Initiative Marseille, en face de BBI Quartier.
D'accord.
Donc, j'étais accompagné, accompagné par 4 associations en général.
D'accord.
Et c'était Senga, Solidarité Migrants Auto-Entrepreneurs, et aussi Initiative Marseille, et aussi BBI Quartier. Les BBI quartiers, c'est l'État, je crois.
D'accord.
Et comme je suis dans un quartier prioritaire, j'avais une dette sans intérêt.
Je comprends. En tout cas, je précise qu'on fait cet enregistrement dans la cuisine du Rimmel. Donc Abed, il est un peu pressé parce que il y a des clients qui rentrent, qui sortent. Hein. Et puis d'ailleurs, la porte était ouverte tout à l'heure et une dame à la rue est rentrée. La soupe sentait très très bon. Alors bon, moi je dois dire qu'évidemment, j'adore les cuisines méditerranéennes en général. J'ai un peu de mal en tant que Français à aimer tout ce qui est épicé. Mais justement, ce que j'aime beaucoup de ce que je connais de la cuisine palestinienne, c'est que c'est doux en fait. Et là, ça sent très bon. Et je crois qu'avec toi, il y a une dame là qui vous fait de la soupe, c'est ça?
C'est notre super chef, ouais.
Ah, c'est la chef, d'accord. On peut lui parler. Oui.
Et elle parle pas.
D'accord. Et alors la soupe qui se prépare, qui sent si bon, c'est quoi? Tu peux nous décrire cette soupe?
En fait, c'est pas que la soupe. Elle est en train de préparer pour le soir et plusieurs choses. On commence par le moussakhan. Le moussakhan, c'est un repas palestinien très spécial.
D'accord.
Et c'est le poulet mariné au huile d'olive, sumac, oignon et citron. Et on le sert ici avec le riz. Originalement, c'est pas avec le riz, les gars. Je sais, vous allez vous critiquer un bout, mais c'est ok. Mais chez nous, là, on le sert avec le riz traditionnel, très très bien parfumé. Et aussi, il a préparé la viande du maklouba. C'est bien ébissé quand même.
Mmh.
Et comme t'as dit, c'est bien ébissé, mais c'est deux. Exactement, c'est pas assez fort, c'est pas agressif, comme des ibis. Et on a aussi préparé le knafa classique, et parce qu'il est toujours frais chez nous. On a aussi préparé le mujadra. C'est le riz au lentilles. Et c'est ça l'odeur, en fait. Je crois que c'est le mojadara en particulier. Ah. C'est le riz aux lentilles ébaissées avec l'oignon. D'accord. Et on le sert avec du salade.
D'accord.
Et le soupe de lentilles, bien sûr, est toujours disponible chez nous.
Ok, toujours disponible la soupe de lentilles. Ok. Enfin, en tout cas, moi, encore une fois, j'adore toutes les cuisines du monde, mais je n'aime pas trop ce qui est très fort. Hein, par exemple, les piments qu'aiment beaucoup manger des gens d'Asie, ou alors le wasabi, etc. Mais en fait, ce que j'ai découvert, moi, ce qui m'a rendu dingue de la cuisine palestinienne et de l'agriculture palestinienne, c'est le fameux za'atar. Alors, je rappelle que za'atar, ça veut dire thym, toutes les variétés de thym qu'on peut trouver en Méditerranée et ailleurs, mais au Moyen-Orient, que ce soit au Liban, Syrie, etc. Et donc en particulier en Palestine, en fait c'est un mélange d'origan d'Orient, de graines de sésame grillé et de sumac. Et finalement le za'atar, eh bien, à table on écarte la salière et dans tout ce qu'on aime manger, que ce soit des salades de tomates, des fromages, des pâtes, du riz, de la viande, du poisson, même des pizzas, hop, quand on rajoute du za'atar, en fait ça exauce le goût de ce qu'on aime manger. Et moi ce que j'aime dans cette cuisine, c'est que les épices exaucent les goûts des produits du terroir plutôt que de les masquer. Voilà. Donc là, on va attendre Abel qui est en train de prendre la commande de clients qui sont arrivés. Ce sont des Italiens. Et donc, on a compris qu'Abed donc, vient de la bande de Gaza. Bien évidemment, il parle le palestinien, mais là-bas, beaucoup de Palestiniens apprennent l'anglais. Et depuis qu'il est en France, bien sûr, et surtout à Marseille, il a appris le français. Voilà, donc ce restaurant, ça s'appelle le Rimal. C'est un restaurant petit, mais où il tient à ce que toutes les cuisines soient faites avec des produits frais. Donc il y a beaucoup de monde qui s'active. Et donc c'est ouvert tous les jours, à midi et le soir, sauf le dimanche soir. Et donc, bien sûr, on peut consommer sur place. Il y a une petite salle, une petite terrasse, mais on peut aussi emporter. Voilà, et donc ce restaurant Le Rimal s'ajoute à d'autres lieux où on peut apprécier la cuisine palestinienne à Marseille. Depuis très longtemps, il y a un grand restaurant qui s'appelle tout simplement La Palestine. C'est rue Mazenod, hein, derrière notre fameuse cathédrale de la Major. Après, depuis longtemps aussi, il y a une famille, on va dire syro-palestinienne, qui a créé la bistronomie, donc syro-palestinienne. Et c'est chez Yassine. Il y en a un qui est au Cours Julien, il y en a un autre qui est au Vieux-Port, à côté de l'hôtel de ville. On a également un autre lieu qui s'est créé, cette fois Boulevard des Dames en bas, qui fait plutôt de la restauration rapide, c'est le Shawarma Palestine. Et puis il y en a un autre qui monte là dans la petite rue Vian près de la plaine, etc. Voilà, à Aix, pas trop loin d'ici, à Aix-la-Durane, on a le restaurant le Mahaska. Alors lui, il existe depuis longtemps, et là c'est la famille de sa mère, qui est une famille chrétienne de Nazareth, qui a ouvert ce restaurant il y a très longtemps, qui fonctionne très bien, voilà. Et donc, bien sûr, à Marseille, on aime la Méditerranée, et donc on aime forcément tous ceux qui sont autour de cette Méditerranée, qui devraient tous vivre en paix. Voilà, et on attend le retour d'Abed, qui prend la commande de ses clients italiens.
أنا صدى الصوت اللي انكسر حلمي مخبى تحت الحجر أنا الأمل والحياة أنا اللي Plus grand que nous, voyage vers toi. J'aimerais que tous nos mots d'amour effacent le froid. J'aimerais que ta voix résonne dans nos cœurs fredonnes. J'aimerais que ce chant soit mes bras. Viens, je te le donne. Manit lou
حكاني وتمنيت لو اني حجر دق الخيام لولا برداني تمنيت لو اني عبر ورجع لعينك عين J'aimerais que l'amour jaillisse, efface tes cicatrices. J'aimerais que ta joie profonde irradie le monde.
J'aimerais que le monde entier contemple ta beauté. J'aimerais que toute ta douceur
عالحنجرة اسمك ورد الصدى كحلك ملحي سرق ريقي عطشاني اندهلك عطشاني اندهلك
Desidero che il vento
J'aimerais que pour toi
poesia.
L'air est un parfum de miel
J'aimerais pouvoir t'entendre
J'aimerais que ta nuit soit douce
J'aimerais que tes nuits soient douces et tes rêves.
J'aimerais qu'un jour, les ruines de ta ville deviennent cité d'un pardon sans guerre. J'aimerais entendre tes chansons, goûter ta cuisine.
J'aimerais que ton rire éclate, parce que cesse les attaques.
J'aimerais que tu chantes encore les chants gais de l'enfance.
J'aimerais que tu vives bien, entouré de tes copains.
J'aimerais que ce chant commun qui nous unit en cœur. Puisse calmer tes peurs.
J'aimerais que l'amour jaillisse,
qu'il
efface les cicatrices.
Sussurri poésie à tout il est
sous les mains. Pour toi.
J'aimerais qu'un jour,
j'aimerais que tu
les ruines de ta vie
dans l'authenticité dans le
cœur du chant. Mais Gustave
Jacques et Gustave
Jacques et Gustave Jacques
نغمي على دقة وطن مخبار بحر
مهار
أرض الصدى
فوق
الخال رأس كتاب
دار
الأسد بيناتنا قبل القمح أشقر
J'aimerais pouvoir t'entendre
مين يسمع صوتي ويوصلوا لبعيد
Voilà, cette chanson est longue, elle dure 6 minutes, mais je crois que c'était pas possible de la couper tellement il me semble que c'est un chef-d'œuvre. Donc cette chanson s'appelle « Chanson pour t'entendre, enfant de Gaza ». Elle provient du collectif, mais pour ma part dans ce collectif émerge le nom de Monaim Adouane, qui est un très très grand musicien palestinien qui travaille à Marseille depuis des années, qui a créé à l'époque un chœur qui s'appelait Ibn Khaldoun, qui a fait partie des artistes qui ont produit une œuvre, un opéra pour le Festival d'Aix qui s'appelait Orfeo et Majnoun. Et donc cette chanson, pourtant tant d'enfants de Gaza, les gens qui ont participé, c'est Morgan M, Fouad Kader, Lula Elt, Renaud Grémillon, Jérôme Medeville, Elias Kader, Malina, Emmanuel Pididjob, Samuel Womom, Ishtar, Delphine Kam et donc Mounaim Adouan. Parce qu'en définitive, tout ce qu'on fait, nous autres, les êtres humains adultes, avant toute chose, on a évidemment le souci essentiel, fondamental des enfants. Donc c'était la chanson pour t'enfendre, Enfants de Gaza. Et pendant ce temps, là-bas à Gaza, où des centaines de milliers de gens essayent de survivre, alors qu'il suffirait d'actions très précises à faire de la part, ne serait-ce que de notre État, de la communauté européenne, mais c'est tout simplement, c'est cesser les accords de coopération avec l'État d'Israël, de façon à l'empêcher de continuer le saccage qu'il commet et qu'on revienne à des discussions, à de la diplomatie, à des accords. En attendant, on a à Gaza un personnage assez fantastique, c'est Ziad Medouk. Ziad Medouk qui est francophone, il était prof de français dans l'une des universités de Gaza. Bien évidemment, il ne peut plus exercer à l'université puisqu'il n'y en a plus une seule qui est debout. Mais il continue de rester là-bas et il était déjà connu pour ses écrits littéraires, il avait plusieurs prix littéraires, mais quand les choses deviennent tellement terribles au quotidien, finalement, ce qui reste pour résister, pour écrire, c'est la poésie. Et donc, l'un des derniers livres de Ziad Medouk s'intitule « Poème d'espoir à Gaza la dévastée ». Il a été édité aux éditions de Rochefort. Ce livre et d'autres qu'on cite régulièrement, on peut les trouver à Marseille dans notre magnifique librairie associative Transit, qui est situé au 51 boulevard de la Libération. Et donc l'un des poèmes de ce recueil de Ziad Medouk, en pensant à ceux qui vont partir sur la flottille, s'intitule « Je suis le Palestinien de Gaza ». Je suis sur une pierre, au bord de la mer, à Gaza, une mer cloisonnée, une mer chantante, qui nous porte dans ses bras, moi et mon peuple. Ce peuple qui vit sur ses rives sans en jouir, où même les bateaux pacifiques de solidarité sont lâchement arraisonnés et piratés par leur marine, sans légitimité ni répit. Leur marine, évidemment, c'est celle d'Israël. À Gaza, l'encerclée, je décris les olives qui poussent et mûrissent sur cette terre, socle de notre vie, malgré les bulldozers et les machines de guerre qui déchirent les champs. Sans relâche, j'écris des mots dédiés aux habitants qui résistent et combattent les ennemis de la vie. Sensible au malheur immensément préoccupant de cette population qui subit un destin pitoyable. Je contemple les lumières de la Palestine si proche et inaccessible. Je suis l'infatigable patriote, le défenseur des droits humains, tellement bafoué sur cette terre chère aux braves solidaires, accablé et triste de voir ce monde abject et atomisé se taire, eux qui souhaitent que la paix finisse par éclore. Avec une volonté inaltérable, avec bienveillance, courage et vaillance, avec un immense amour de la vie, je compose mes vers. Je témoigne sur le vif des attaques incessantes et des bombardements sauvages qui martyrisent nos enfants. Ma poésie est une lumière qui éclaire et réchauffe la liberté, et je souhaite conserver cette force de l'espoir. Je suis la voix d'un peuple qui aspire à la liberté. Mes mots traversent les murs, leurs chants passent les frontières. Je suis poète de paix par excellence. Ma seule arme est la parole libérée et fraternelle. Je ne cherche pas dans mes lignes traces d'une vie, mais traces des vivants. Je choisis le mythe des mots comme moteur. Mes mots sont ma force, mais je ne serai pas avare de mon sang. J'essaie d'adoucir le malheur de la Palestine. Je lutte par des mots, contre les mots de la guerre et de la haine, contre ce chaos quotidien de plus en plus odieux. Voilà, dans ce poème, le jeu, c'est pas moi, Philippe, hein, le jeu, c'est Miziad Medouk, donc qui continue d'œuvrer à Gaza, lorsqu'il a pu trouver le matin de l'eau potable pour boire, lorsqu'il a pu trouver du bois pour faire à manger, lorsqu'il a pu faire certaines interventions autant qu'il peut, des vidéoconférences, etc. Il va auprès des enfants pour continuer inlassablement ce travail auprès des enfants. Et donc là, on est le 28 mars, j'enregistre en fait, le 25 mars, mais on enregistre le 18 et je serai de retour donc là la semaine prochaine d'un endroit qui s'appelle le Luberon où s'est créé un nouveau collectif Palestine-Luberon qui crée ce week-end un événement qui s'appelle Parole palestinienne. Et j'ai eu la chance aussi dans le Var de rencontrer le collectif cette fois Solidarité Var Palestine. Et dans une émission précédente Une heure en Palestine, on a pu avoir en français et en arabe la lecture de quelques poèmes de la très jeune poétesse Dana Fleifel qui a été édité aux éditions Fidèle Anthelme par Frédéric Guetta Liviani, qui est elle-même une poétesse. Alors j'ouvre ce petit recueil, alors à la fin c'est écrit en arabe, peut-être que Sidi pourrait nous le lire, mais là non, il est tard et Sidi s'occupe de la technique. Et donc je vais lire le poème qui s'intitule « L'anémone » donc de Dana Fleifel, dans ce petit recueil édité aux éditions Fidèle Anthelme. Ça s'intitule « L'anémone ». Je broie de la poésie dans la meule de ma mémoire. Ça me désoriente et je me perds. Je suis rivé à l'éclat de cette noirceur et ça refuse de venir, s'attache avec le rouge des pétales. Ça tire plaisir de ma respiration qui panique et bride les ressorts de mon désir. Mon jardin sanglote, c'est à cause de l'abandon. Une langueur sans réveil refuse de dire adieu à mon corps. Un drone envahit le silence qui me servait de refuge. Un tank écrase mes derniers épis. Le boucan de mon cœur trahit ma présence. Adieu, mon anémone. Sans toi, je ne suis pas, je ne serai pas. Voilà, donc quand les choses sont désespérées, il y a toujours l'espoir avec la poésie, mais aussi avec la musique. Et à ce propos, ben demain, au petit cabaret de la Friche, là, la Belle de Mai, aura eu une très grande soirée animée par Radio Galère, c'est par rapport aux 30 ans de l'émission qui est Vive à la Musica. Hein, donc dès demain, à partir de 19h et jusqu'à point d'heure, rendez-vous au petit cabaret de la Friche pour cela. Voilà, la prochaine émission, mais on sera déjà au mois d'avril, c'est pas une blague, on sera le 1er avril, et là on aura le plaisir de retrouver Marie qui est la co-réalisatrice de l'excellent podcast Yalla, je t'emmène en Palestine, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. C'est l'un des personnages, Marie et son podcast, qui m'a donné envie d'y aller. Alors j'avais réservé mon billet d'avion d'ailleurs pour y aller avec le fameux Philistin, là, ben hier, mardi, mais évidemment le vol a été annulé. En revanche, on a quand même des bonnes nouvelles de là-bas, dans le sens où les producteurs agricoles et artisanaux continuent de produire en Cisjordanie. Des palettes sont prêtes et on espère que fin mars, enfin, un conteneur retraversera la Méditerranée pour arriver à Marseille et ensuite pour partir en Aveyron, près de Rodez, où est situé le stock et le siège de la petite entreprise Fipsouk, France Import Palestine, parce qu'un des moyens, évidemment, de soutenir aussi les Palestiniens, bien, tout simplement, c'est de consommer ce qu'ils produisent. Donc moi, ça fait 5 ans que je développe le projet de la route du Zaatar. J'anime régulièrement des stands avec des produits palestiniens, ceux qui peuvent rendez-vous le dimanche matin au marché de la Ciotat, au marché du Vieux-Port, qui est un très très joli marché. Et en tout cas, continuons tous et toutes de parler de ces gens-là qui sont noyés dans le flou des fausses informations, dans le flou que soi-disant il n'y a pas d'innocents à Gaza. Bien sûr que si, il reste encore énormément de femmes et d'enfants à sauver, et des hommes aussi. Et donc merci infiniment à Radio Galère de continuer sans relâche d'animer cette émission Une heure en Palestine. Et puis je vais terminer en parlant d'un conte que nous a fait découvrir à l'émission de Noël Claire Britain et son acolyte. Ce conte s'appelle Le secret de l'huile. Il a été écrit par Walid Daka, qui est resté pendant 30 ans enfermé dans les prisons d'Israël et qui a fini par y mourir. Mais avant de mourir, il a réussi à faire sortir plusieurs manuscrits, mais également de son sperme, ce qui lui a permis d'avoir un enfant. Voilà, Le secret de l'huile de Walid Daka. Tous ces livres, vous pouvez les retrouver donc bien évidemment sur Internet, mais surtout à Marseille, à la librairie Transit. Et pour continuer avec la poésie, il y a une anthologie, Poésie Palestine, qui est absolument superbe. une collision redirigée par Alain Makantsou avec Abdelatif Lahabi. Voilà, donc merci Radio Galère, merci Nord Palestine et on souhaite le meilleur courage possible à toutes celles et tous ceux qui préparent les nouvelles flottilles pour Gaza. Voilà, on aura aussi dans la prochaine émission du 1er avril Juliette qui est une personne très très importante pour la campagne boycott, désinvestissement, solidarité, l'un des moyens qu'on a tous et tous d'agir contre les agressions sur les Palestiniens, contre le génocide, et bien c'est tout simplement le boycott, hein, en choisissant de ne pas acheter des produits qui sont fabriqués par des entreprises qui investissent dans les colonies illégales. Voilà, donc rendez-vous le 1er avril, c'est pas une blague, et donc le départ prévu de la flottille Southern Galilean Tumaza, ça serait au niveau du 4 ou du 5 avril, ça dépendra de la météo, mais on sera tous et toutes à les soutenir, ne serait-ce qu'à l'Estac et le long des ports. Allez, à presto.
Visages.